Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, rencontre avec Isabelle Stengers. Pas facile de résumer le dernier livre d'Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, un ouvrage particulièrement foisonnant, riche et qui suscite la réflexion. Alors, plutôt que d'essayer de résumer, on a surtout cherché à avoir une conversation impressionniste en vous engageant vivement à le lire vous-même. Bon, Isabelle Stengers, je sens que ça va être une conversation nourrie puisque avant même le démarrage, on a déjà entamé la discussion. Voilà, ce que j'étais en train de vous proposer, c'est qu'on parle peut-être de deux de vos livres à la fois parce qu'ils sont en résonance l'un avec l'autre. Ce sont des livres parents. La sorcellerie capitaliste et Au temps des catastrophes. Alors on est du côté des maléfices, on est du côté de la catastrophe. La sorcellerie capitaliste, vous l'avez écrit en 2004, sous le coup de l'émotion, 4 ans plus tard, de Seattle, de ce cri que vous aviez entendu, un autre monde est possible. Et puis aujourd'hui, dans le temps des catastrophes, cette affirmation-là est d'une certaine manière remise en question, même si vous ne posez pas la question. Notre monde est-il possible? Ça n'est plus si sûr. En tout cas, il y a eu une intrusion depuis qui rend les choses différentes. Est-ce qu'on remonte d'abord à la sorcellerie?
Mais on peut faire immédiatement le contraste et puis on remontera. C'est vrai que les deux, et parler du capitalisme et de ce que le capitalisme nous fait, en ce qui me concerne, qui ne suis pas politologue ni économiste, c'est toujours sous le coup d'un devoir parler et donc d'un événement qui fait parler. Et je dirais qu'au moment d'écrire Autant des catastrophes, j'avais envie de dire des choses peut-être un peu différemment de la sorcellerie capitaliste. Et puis je me suis rendu compte que devait venir au centre, devait être le cœur de ce livre, ce qui nous fait ou devrait nous faire penser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un autre monde est possible a changé de sens. Un autre monde est possible était un cri porté par l'alternative altermondialiste, mais désormais c'est un cri qui est ça ou la barbarie au sens d'horizon temporel désormais extrêmement restreint. C'est donc au fond une contraction du temps qui était déjà un peu présente dans la sorcellerie capitaliste, mais que je voulais dramatiser. Cet autre monde qui est possible, c'est aussi une question qui regarde même plus ça dépend de la génération de ceux qui écoutent, mais même plus nos petits-enfants, c'est de nos enfants qu'il s'agit.
Parler de dramatisation. Pourtant, j'ai été frappée par le fait que vous n'utilisez pas la dramatisation et qu'au contraire, vous êtes extraordinairement précautionneuse dans votre manière de dire les choses. Vous faites attention à chaque mot, à chaque phrase. Il y a une volonté de précision et de justesse dans la manière d'amener les idées qui sont des idées, en effet, autour de cette interrogation qui est la nôtre aujourd'hui. Quel autre monde possible et comment éviter la barbarie?
Mais penser devant ce qui est en train de venir demande beaucoup de soins, beaucoup de précautions, parce qu'on peut soit virer dans une espèce de prophétisme du malheur quasiment inévitable. Et c'est vrai que quand on lit certains journaux scientifiques, les choses s'annoncent vraiment menaçantes. soit du côté d'un optimisme béat. Il faut tenir une position relativement étroite pour faire exister un possible sans le transformer en probable ni en garantie. Et pour penser aujourd'hui, c'est-à-dire à quoi avons-nous à faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un livre profondément situé dans 15 ans. Ça pourrait être un testament. Hein. Pourquoi on n'a pas pu faire ce que tout le monde, à ce moment-là, saura qu'on aurait dû faire. Peut-être que dans 60 ans, s'il y a encore des historiens, ils le liront comme témoignage de ce qu'on pouvait penser en 2009. Donc c'est un livre pour aujourd'hui, et pour aujourd'hui que je situe comme vraiment en suspens entre deux histoires. C'est comme ça que le livre commence. Tous les réflexes de ceux qui nous gouvernent sont encore axés sur l'impératif de croissance. Et ce n'est pas seulement une décision de leur part. Tous les indicateurs, toute l'organisation de notre monde est faite pour la croissance. Même la crise aujourd'hui, qui s'est déroulée à peu près au moment où je corrigeais les épreuves, enfin qui a explosé au moment où je corrigeais les épreuves, j'ai changé les trois premières pages, eh bien cette crise est vue du point de vue de la relance et la nouvelle sobriété dont on parle des gens qui en ont les moyens et qui pourtant changent de mœurs de consommation est vue comme un problème et pas comme une promesse. On ne les encourage pas, les économistes constatent. Donc la croissance est vraiment ce qui tient l'organisation de nos mondes. Et pourtant, désormais, nous savons, et je crois que c'est un événement qu'on en ait fait plus que prendre conscience, ça nous a véritablement affectés depuis quelques années, nous savons que cette histoire mène droit au mur, et nous savons que, de toute façon, dans 50 ans, les paramètres auront changé. Mais on ne sait pas encore trop quoi en faire. Et donc je m'adresse au fond là à ceux qui sont un peu en suspens entre ces deux histoires, y compris ceux dont le métier éventuellement les altermondialistes et les anticapitalistes. Il y a quelque chose qui a changé et cet autre monde qui est possible doit changer de ton. De nouveaux problèmes s'organisent autour de ce monde qui est possible, ce monde qui devrait être possible si l'histoire humaine ne doit pas terminer dans un ricanement désespéré.
En suspens entre deux histoires, on ne connaît pas la suivante, on ne connaît pas la suite, et pourtant, dites-vous, il faut se mettre en marche, il faut se remettre à penser. C'est là que j'aimerais peut-être qu'on remonte à la sorcellerie capitaliste, puisque dans la sorcellerie capitaliste, vous expliquez en quoi et comment le système qui est le nôtre nous a figé, nous a sidéré, nous a rendu incapables de pensée et d'action.
Disons que dans la sorcellerie capitaliste, le problème auquel j'essayais avec Philippe Pignard non pas de répondre, mais par rapport auquel j'essayais de penser, est au fond ce qui nous est arrivé. Je dirais que pour moi, la date signale, ça aurait été 95, curieusement. En 95, il y avait les grandes manifestations en France. Et,
les grandes grèves.
Les grandes grèves. Et il y a eu un sondage que j'ai entendu par hasard et où on disait que la majorité des Français pensaient que la vie de leurs enfants serait moins bonne que la leur. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire que ce qui a tenu jusqu'ici, c'est-à-dire la référence au progrès, serrons les dents. Ça ira mieux demain pour nos enfants, nous serrons les dents, mais nous allons mieux que nos parents et ce sera encore mieux pour nos enfants, que cette référence au progrès est enrayée. Et pourtant, elle est enrayée à un moment où le capitalisme est plus puissant que jamais. Et cet enrayement n'atteint en rien sa puissance. Ça voulait dire que on entrait dans une période d'inconnu où justement il fallait penser le capitalisme sans cette croyance au progrès qui l'a toujours nourri. Et c'est là que nommer le capitalisme autrement, se dire tiens on a affaire à quelque chose qui a ce pouvoir-là, de nous empêcher de penser alors qu'on ne croit plus et qu'on aurait pu penser que cette croyance faisait partie de son pouvoir, c'est lui donner un pouvoir encore d'un autre type. Et ce type, c'est celui qu'on a nommé celui d'une puissance sorcière, c'est-à-dire d'une puissance qui capture la pensée, qui tue la pensée. Et donc, c'était ce qu'on pouvait penser, enfin, ce que l'époque nous imposait ou proposait de penser pour réagir à sa nouveauté, mais c'est aussi quelque chose, comme toute pensée, qui peut retourner vers le passé et dire, et retourner vers Marx, retourner, et non pas faire la leçon à Marx, mais charger la figure du capitalisme d'un pouvoir qui, contre lequel, au fond, l'élucidation, la rationalité scientifique à laquelle Marx prétendait, l'élucidation, la prise de conscience, l'idée que c'est par ignorance que les travailleurs étaient aliénés, enfin tout cet optimisme du savoir devait se reprendre parce que contre une puissance sorcière, le savoir ne peut pas grand-chose.
Pourquoi le capitalisme, Isabelle Stengers ?
Moi, je n'ai jamais renoncé, même dans les années 80 où on disait Marx est mort, etc. Je n'ai jamais renoncé à penser en termes de capitalisme au sens marxiste du terme. Le diagnostic posé par Marx me semblait absolument confirmé dans les faits. Et par contre, bien évidemment, Marx lui-même n'aurait certainement pas prévu que le malheureux, que bien plus d'un siècle après lui, on continue à chercher dans ses écrits la clé de sortir du capitalisme. Donc j'ai toujours vu plutôt l'histoire du marxisme telle que nous l'avons connue au XXe siècle comme quelque chose de l'ordre d'une catastrophe. Si le rapport de Marx avec une vision scientifique avait été effective, ça aurait voulu dire que, depuis Marx, d'autres auteurs en auraient hérité sur des modes innovants et non pas comme d'un texte quasi saint où on va rechercher les solutions et la boussole. Donc le caractère d'échec du projet marxiste, indépendamment des échecs factuels, c'est son héritage, c'est-à-dire son héritage respectueux, ce qui n'a pas de sens quand on a affaire à quelqu'un qui se pensait comme chercheur.
Ce bégaiement que vous êtes en train d'évoquer, de décrire, il caractérise en fait l'histoire du XXe siècle. Vous dites aussi qu'on se prétend les héritiers des Lumières, et qu'en vérité, on est des sortes de rentiers des Lumières qui ne cultivons pas cet héritage, qui ne le faisons pas vivre.
Disons qu'il y a des héritiers des Lumières, certainement. Je dirais que, pour moi, les Lumières, d'abord, c'est le caractère d'intelligence lucide et irrespectueuse et chercheuse que je peux associer à Diderot. Donc les Lumières, c'est acide, c'est pas une belle lumière, comment dirais-je, harmonieuse. Et donc si je veux associer à Diderot des héritiers, j'irai du côté de Michel Foucault par exemple, de tous ceux qui ont continué à oser aller contre les consensus bien pensants, et non pas du côté des défenseurs des droits de l'homme et de la fierté de notre démocratie laïque comme monument. Les Lumières, telles que j'en hérite, n'aimaient pas les monuments. Et en effet, je dirais que beaucoup de ceux qui se réfèrent aux Lumières s'en réfèrent plutôt comme de quelque chose que nous avons et que d'autres n'ont pas et dont il faut les nourrir, qu'ils le veuillent ou non. Ce qui est un détournement d'héritage radical, puisque là, celui qui pense à la place des autres, eh bien, il a la voix du pouvoir. Et je tendrais à dissocier l'aventure des Lumières avec une voix de pouvoir, quelle qu'elle soit. Donc, oui, je pense que beaucoup des choses qui nous arrivent n'atteignent pas, qui nous arrivent. Je pense par exemple aux caricatures pour parler d'une des dernières fois où on a hurlé « lumière, lumière, lumière ». C'était ces fameuses caricatures de Mohamed. Je ne vais surtout pas défendre ceux qui ont fait des émeutes dans les villes pour protester contre ces caricatures. Mais emphatiquement, il ne s'agit pas de blasphème et de droit au blasphème. Le blasphème, c'est quand on blasphème contre soi-même et ses proches. Le blasphème n'est pas une manière d'attaquer des gens qu'on ne connaît pas. d'attaquer gratuitement en profitant du fait que nous ne croyons plus et que nous, donc nous avons le droit de faire n'importe quoi. Le blasphème, c'est quelque chose qui doit faire vibrer de pouvons-nous, irons-nous jusque-là, au risque de se brouiller avec ses plus proches et même avec soi-même, dans la mesure où on a été élevé sur un certain mode. Par exemple, ici à l'Université de Bruxelles, qui est une université libre exaministe, donc libre pensée, il y a eu, comme toujours, des événements qui ont suivi tout ça. Il y a eu une espèce de mobilisation pour les valeurs. Mais les vrais blasphémateurs, je les ai entendus dans une salle où on nous parlait des Lumières, etc. Et ils disaient la pensée ne doit pas se soumettre, mais la pensée est soumise. Par pensée, la pensée est soumise, voilà qui, chez nous, est un blasphème. Et ce n'est pas le dernier mot, c'est quelque chose qui force à penser et qui doit faire mal. Dire la pensée est soumise dans la maison du libre examen, voilà ce que j'appelle un blasphème, ça nous fait mal. Donc, oui, l'héritage des Lumières, devenu rente, c'est ce qui est arrivé quand l'Europe, à partir du 19e siècle, est devenue une puissance colonisatrice et civilisatrice. C'est-à-dire qu'elle a pensé pouvoir exporter tel quel ce qui était devenu une conquête étatique, alors que ce n'était pas une pensée étatique que les Lumières. Et je crois que c'est une des constantes entre la sorcellerie capitaliste et au temps des catastrophes, que quand j'essaye de penser capitalisme, j'essaye de penser État aussi. Au sens de lutter contre l'idée que de prendre à la lettre le capitalisme qui dit nous sommes contre l'État, il faut démanteler l'État, moins d'État, ce qui fait que si on se laisse prendre, on va défendre l'État, plus d'État, etc. Alors que entre l'État et le capitalisme, il n'y a pas d'égalité, l'un n'est pas l'instrument de l'autre, mais il y a une profonde connivence qu'on voit aujourd'hui pleinement, puisque et qui est une connivence de fait de machinique et non pas d'intention. La situation est telle qu'aujourd'hui, les États n'ont pas eu le choix. Il fallait sauver les banques. Il fallait aller au secours du capitalisme. C'est un exemple extrême d'une situation que dès la sorcellerie capitaliste, on analysait en disant à chaque époque se décide ce que l'État laisse faire au capitalisme et ce que le capitalisme fait faire à l'État. Ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est quand l'État a laissé faire au capitalisme toute une série de privatisations de ce qui était censé être public, et quand le capitalisme a fait faire beaucoup de nouvelles choses à l'État. Si on se rend compte du type de message qu'on a reçu comme si c'était normal, le fait que l'État doive se transformer en douanier pour pourchasser les produits qui ne sont pas de marque mais qui ressemblent à des marques, les contrefaçons, l'État qui considère que la contrefaçon est une mise en danger de l'ordre public, eh bien ça c'est quelque chose d'extraordinaire que le capitalisme a fait faire à l'État.
Ce partage des rôles, vous dites qu'il s'explique par le fait que, pour des raisons différentes, le capitalisme et l'État ont besoin qu'on ne pense pas. Oui. Ils en ont besoin, dites-vous, le capitalisme parce qu'il revendique son absolue irresponsabilité vis-à-vis des conséquences de ses actes, et que donc il ne faut surtout pas qu'on pense à ses actes et qu'on voit les conséquences. Et l'État parce que son organisation, je ne sais comment dire, fait qu'il a besoin de normaliser, de normer, qu'il a besoin que tout ce qu'il décide s'adresse à tout le monde sans perdre de temps.
Exactement, il y a, me semble-t-il, une logique étatique que j'ai tenté de mettre sous le signe du quiconque, et qui a donc une forme juridique, mais qui va bien plus loin que les points de droit, qui va dans l'ensemble d'institutions d'État, y compris l'enseignement, y compris les services publics. Il y a un règne du quiconque, et des exceptions, bien évidemment, mais qui dit quiconque dit aussi exception, mais qui dit quiconque et exception dit que les conséquences de cette définition ne pourront être pensées que s'il y a lutte, que s'il y a résistance. C'est-à-dire que l'État est, me semble-t-il, assez définitionnellement aveugle aux conséquences de ces définitions, sauf si on l'impose. Et à ce moment-là, on fera un nouveau règlement, la classe des quiconques sera éventuellement divisée en sous-segments de quiconque prime bis, etc., de telle sorte que les conséquences soient... deviennent éventuellement plus acceptables. Mais il y a un désir d'aveuglement de l'État, un désir au sens positif, de ne pas, comment dirais-je, penser les conséquences. De l'État aussi, ici, de l'État, un désir de ne pas penser les conséquences. Le capitalisme aime bien les conséquences à court terme, mais toujours dans la même monnaie, c'est-à-dire les conséquences en termes de libération de nouveaux types de profits. Ce qu'il ne peut pas admettre, c'est que ces conséquences soient pensées par d'autres. C'est à ça qu'a beaucoup servi le progrès. Quand des gens protestaient contre les conséquences destructrices d'une innovation, on disait c'est le progrès qui veut ça, c'est ça ou retourner à la caverne. C'est encore ce qu'on a entendu à propos des OGM, des organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que l'État est un entrepreneur, effectivement, mais il demande le droit que personne ne lui objecte. Les conséquences de ces entreprises, que ce soit jugé seulement par ce qu'il appelle, avec des tremblements de sacré dans la voix, le marché. Donc il se veut face au marché qui juge et que nul autre n'objecte de conséquences. Et donc là, il me semble que l'événement OGM sert bien à penser ça, puisque tout à la fois les États et le capitalisme ont été pris de court par ce mouvement de résistance un peu inopiné qui est arrivé en Europe. Évidemment, on n'a pas gagné contre les OGM, au sens où ils recouvrent des millions d'hectares un peu partout, mais néanmoins, on a réussi à produire ce double bafouillement des consortiums de semenciers type Monsanto et des États. Et type aussi les communautés européennes. Dans les deux cas, ce qui devait passer comme ça avait toujours passé, c'est-à-dire des résistances, certes, mais qui s'apaisent, qui ne trouvent pas de résonance, qui n'arrivent pas à trouver de consistance, et on crie pendant un an ou deux et puis on s'habitue. Eh bien non, non seulement on ne s'y est pas habitué, non seulement, comme on dit, le consommateur européen n'aime toujours pas les OGM, mais de manière aussi tout à fait, pour moi, prometteuse, il y a eu une production de savoir sur les conséquences et de savoir sur des conséquences de tous ordres. C'est-à-dire qu'au début, c'était éventuellement la santé. Et ça, on comprend encore que l'Européen soit soucieux de sa santé, ça entre dans sa vision égoïste et peureuse et frileuse, et on allait lui expliquer que les OGM, c'était pas dangereux, etc. Mais voilà que les questions de santé ont fait alliance avec les questions des semences et de l'appropriation des semences, avec les questions des brevets, avec les questions du tiers-monde et des paysans indiens qui sont venus protester, etc., avec la question de la recherche scientifique, avec la question du fait que cette recherche scientifique qui nous garantissait que les OGM étaient un progrès avait pour porte-parole des chercheurs de laboratoire, et que par contre les chercheurs de terrain qui savent ce qu'est un champ et qui savent ce qu'ils peuvent éventuellement dire l'importance de processus aléatoires et longs, et lents, mais qui peuvent prendre toute leur importance dans un champ, mais pas dans un laboratoire, que tous ces chercheurs-là n'avaient pas eu droit à la parole. Donc que les conséquences dont on nous entretenait étaient les conséquences que les chercheurs de laboratoire voulaient prendre au sérieux, et pas les autres. Et donc il y a eu ce moment extraordinaire pour moi en Angleterre, où Blair avait, ne me demandez plus la date, j'ai oublié la date, mais Blair avait proclamé l'année des OGM, et on allait réconcilier les Anglais avec leurs OGM. Il y a eu des conférences partout. Eh bien là, comment dirais-je, les objections étaient à ce point lucides qu'on a pu dire que c'était un échec absolu. C'est-à-dire que plus que les gens ont dit, on peut dire plus on en apprend à propos des OGM, donc on réduit cette ignorance par laquelle on explique leur refus, plus on en apprend à propos des OGM, plus on est sceptique, plus on se dit à quoi bon ou pire. On a compris à quoi c'était bon. Donc là, il y a eu, je crois, quelque chose qui ont frappé en même temps de désarroi Monsanto et le non-événement qu'il escomptait à propos des OGM et l'État qui a failli à sa charge de calmer les populations et de laisser faire Monsanto. Les deux ont bafouillé, l'État de manière beaucoup plus forte, puisqu'on n'entend pas beaucoup Monsanto, on entend ses délégués étatiques ou scientifiques. Le capitalisme ne parle pas beaucoup. Par contre, il y a eu désarroi, et ce désarroi nous en apprend beaucoup sur la manière dont est fabriqué notre monde, dont il va. Parce que justement, ces désarrois venaient du fait que des gens qui étaient censés être irrationnels et finir par se soumettre ont fabriqué du savoir, ont fabriqué du savoir sur les conséquences et ont fabriqué du savoir sur ce monde. Et je pense que les héritiers aujourd'hui en Europe de l'événement OGM sont parmi ceux qui peuvent penser ce qui est en train d'arriver maintenant.
Autre élément important, me semble-t-il, de cet événement OGM, comme vous le nommez, le fait que, pour une fois, les populations n'aient pas été vulnérables à ce que vous appelez les alternatives infernales ou les dilemmes incontournables, qui sont deux des armes massivement employées pour empêcher la pensée, pour la brider, pour la retenir.
Disons que les deux étaient présentés... Les deux étaient présentés dans la sorcellerie capitaliste, et au fond, les dilemmes incontournables, c'est plutôt une pensée d'État, je dirais, une pensée étatique. C'est-à-dire, c'est une pensée très abstraite, mais qui nous dit, si vous refusez ça, vous mettez en cause dilemme incontournable, la rationalité ou le progrès. C'est donc des dilemmes au sens, mettre en question, ça a été le cas pour les médicaments, mettre en question la prise de brevet, ce serait empêcher la création des médicaments de demain. Ça, j'appellerais un dilemme incontournable parce que c'est des représentants étatiques qui le produisent. Par contre, l'alternative infernale, elle mord beaucoup plus et elle n'est pas uniquement rhétorique. C'est un montage. C'est ce à quoi ont affaire les travailleurs quand on leur dit si vous revendiquez d'autres conditions de travail, si vous refusez la flexibilité ou l'ensemble de la surexploitation qui a lieu aujourd'hui, eh ben d'accord, mais on déménage, etc. Ça mord immédiatement. C'est pas des grandes abstractions à faire frémir aux mains des intellectuels étatiques. Donc, les alternatives infernales, ça se monte. Au sens où vraiment, ça vous prend à la gorge. Disons qu'à propos des OGM, comme c'était un événement inattendu, les alternatives infernales n'avaient pas été montées. Et les dilemmes incontournables n'ont pas pris. C'est ça ou la régression, c'est ça ou etc. n'ont pas pris. Simplement, il ne faut pas crier victoire trop vite parce que... Le capitalisme peut très bien avoir commencé à monter des alternatives infernales.
C'est-à-dire que là, il a été pris par surprise, en fait.
Exactement, il a été complètement pris par surprise. Mais ça, c'est des leçons qui retiennent. C'est-à-dire que, en ce qui concerne, la manière dont on présenterait une articulation entre croissance et réponse au réchauffement climatique, il y aura plein d'alternatives infernales. C'est-à-dire, c'est ça où, et les deux branches de l'alternative seront absolument dégueulasses l'une et l'autre. Donc ça, c'est des montages extrêmement techniques et qui se font petit à petit jusqu'à ce que tout à coup, elles produisent leurs pleins effets. Et en général, on ne les voit pas tellement. Tant que la pince ne s'est pas renfermée. Tandis que les dilemmes incontournables, il suffit le plus souvent de rire et de passer son chemin.
Pour se désenvoûter. Alors, de manière impressionniste, Isabelle Stengers, on a campé le paysage dans lequel nous évoluons, les uns et les autres. Un paysage dont vous dites qu'il est caractérisé par le fait qu'il est malsain, dangereux, empoisonnant. Et c'est là qu'intervient, coup de tonnerre, une intrusion, celle que vous décrivez dès le début de « Au temps des catastrophes », donc le livre enfant de la sorcellerie, le livre suivant. L'intrusion de Gaïa, dites-vous.
Dans ce livre, j'essaye en effet de penser devant quelque chose avec lequel les climatologues vivent depuis de longues années, mais qui, et il faut ici sans doute rendre hommage à Al Gore, notamment, qui a créé cette expression « une vérité qui dérange »,« inconvenient truth », »,« une vérité qui ne convient pas »,« inconvenient », et un ensemble de petits faits qui, tout à coup, ont donné chair à cette perspective. Et je voulais... comment dirais-je, donner sens au caractère profondément nouveau et inédit dans nos manières de raconter et de supputer nos histoires de ce qui désormais nous attend. Et c'est pour ça que j'ai nommé Gaïa. Au fond, y compris et peut-être surtout même dans l'histoire marxiste, il y a le seul acteur, le seul véritable acteur, c'est l'humain, les humains, les rapports sociaux, les rapports de classe, qui sont tous des rapports humains. Et même quand on parle d'environnement, l'environnement, c'est l'environnement de qui ? Des humains. Donc, ce sont les humains qui sont responsables, qui sont coupables, qui peuvent être protecteurs. La nature doit être protégée. Nous sommes très profondément éloignés des temps anciens où ce qu'on n'appelait d'ailleurs pas nature à l'époque était quelque chose de redoutable. Désormais, c'était devenu quelque chose de vulnérable. Et ça l'est toujours. Les ours blancs sont toujours menacés. La biodiversité terrestre est toujours en question en même temps que notre avenir. Il ne s'agit pas de dire ça, de nier ça, mais nommer Gaïa, c'était nommer l'intrusion de quelque chose qui se présente comme redoutable, comme pas vulnérable, mais par rapport auquel nous sommes vulnérables. Donc c'est changer la scène. J'ai repris le nom de Gaïa pour cela, non pas les ours blancs, non pas la biodiversité, mais ces puissances assez indomptables qui conspirent derrière le réchauffement, qui conspirent au sens d'elles se relancent les unes les autres dans ce qu'on appelle gentiment réchauffement atmosphérique, mais ce n'est pas du tout quelque chose de... tranquille, comme je réchauffe mon plat ou je le mets un peu au micro-ondes. Non, c'est des puissances couplées de manière très, très compliquée. C'est pourquoi, d'ailleurs, on essaye de faire des simulations pour voir ce qui va se passer, mais on n'arrive jamais à être au niveau de la complication de ce montage de puissances indomptables. Et celles-là ne nous connaissent pas. L'ours blanc, on pourrait lui prêter un regard disant « sauve-moi ». Mais Gaïa n'a pas de tel regard, parce que Gaïa ne nous connaît pas. Nous dépendons d'elle, mais elle, c'est une puissance chatouillable. C'est quelque chose, j'ai employé le mot « offensé », nous l'avons offensée, mais pas au sens où elle demanderait des excuses. Nous ne pouvons pas nous adresser à elle. Donc nous ne pouvons pas lui répondre, elle n'attend aucune réponse. Par contre, nous avons à répondre des conséquences et répondre devant la possibilité et même la probabilité que la réponse, si l'histoire dans laquelle nous sommes embarqués pour le moment continue, la probabilité que cette réponse soit ce que j'appelle barbare. C'est-à-dire que je ne pense pas en termes de toute façon, ce sera pour un peu plus long, dans un peu plus longtemps, de fin de l'espèce humaine au sens d'espèce biologique. Mais par contre, que l'ensemble des espoirs, l'ensemble du sens que nous associons à cette histoire, du sens de la justice, du sens d'une certaine responsabilité, coopération, solidarité, s'écroule et que ce soit chacun pour soi et, comment dirais-je, tant pis pour les malheureux, c'est-à-dire nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais porter à la puissance 10 et partout dans tous les coins, je veux dire, ce ne sera pas seulement les pauvres Africains, ce sera ici aussi. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'éminemment probable. C'est pour ça que je l'associe à ce qui s'est passé après Katrina, c'est-à-dire quand les pauvres ont été laissés à eux-mêmes, et même encore aujourd'hui, puisque la plupart de ceux qui ont été évacués de la Nouvelle-Orléans, les pauvres, ben, ne sont pas revenus. Et tout est fait pour qu'ils ne reviennent pas, de telle sorte que la Nouvelle-Orléans devienne une ville propre en ordre, une ville où on peut faire du profit. Donc vraiment, tant pis pour les pauvres. Ils ont payé une fois avec la catastrophe, ils ont payé avec ce qu'ils ont vécu après la catastrophe, et ils continuent, et il ne faut pas croire qu'il y a eu un immense mouvement de solidarité où on se serait dit qu'il faut compenser le crime dont ils ont été victimes, pas le crime de Katrina, le crime de négligence. Non, ils sont toujours malvenus à la Nouvelle-Orléans. Donc pour moi, ça c'est un exemple de ce que j'entends par barbarie. Malheur aux pauvres.
Barbarie qui vient, dites-vous?
Qui vient au sens où, quand on dit c'est quelque chose qui vient, on ne joue pas au prophète, on vient au sens où on la sent venir, c'est-à-dire on la sent déjà là. Ce qu'on fait avec les sans-papiers, les illégaux, est déjà de la barbarie. J'ai gardé un souvenir, c'est des souvenirs comme ça que je garde pour justement ne pas m'habituer. J'ai gardé le souvenir en France du mouvement de réprobation, quoique c'était quand Pasqua était ministre de l'Intérieur, à l'idée de charter fait pour ramener les illégaux chez eux. Il y a eu un mouvement de réprobation, ça a été un choc, comment, mais non, etc. Aujourd'hui, les charters volent dans la normalité absolue. Donc, cette barbarie, c'est pas du jour au lendemain. Elle vient et elle s'installe dans la transition entre ce qui, à un moment donné, est vécu comme intolérable et qui, tout à coup, devient, on s'en rend compte, en 5 ans, 10 ans, est devenu parfaitement tolérable, avec un gros soupir impuissant. Quand la barbarie sera installée, il n'y aura même plus de gros soupir impuissant. Il n'y aura même plus de rêve que ça va s'arranger. Ce sera la brutalité des rapports de force entre ceux qui peuvent construire ma petite, moi, mon éolienne, etc., et les autres.
Et c'est dans l'énormité de cet événement à venir, c'est dans le sentiment d'urgence qu'il réveille que nous devons, dites-vous, redoubler d'attention.
L'un des résultats de l'action conjuguée de l'État et du capitalisme, c'est que juste quelque chose qui est plutôt un art, l'art de faire attention, donc faire attention au sens où c'est actif, où ça demande de la pensée, où ça demande de l'imagination. Attention, ceci pourrait, que cet art a été au fond réduit à presque rien. Faites confiance. Ayez confiance, les choses s'arrangeront, c'est le progrès qui veut ça, etc. Donc, c'est un art avec lequel il s'agit de renouer, parce que même si, comment dirais-je, c'est pour moi la seule antidote par rapport au sens le plus générique possible, par rapport à cette barbarie qui vient, c'est savoir que, de toute façon, on ne reviendra pas à la situation d'avant. C'est pour ça que ce qui nous attend n'est pas une crise, parce que quand on dit crise, on dit quand on aura surmonté la crise, on se retrouvera dans la situation que nous jugeons désirable. Non, désormais, il faudra toujours composer avec Gaïa. On ne pourra plus jamais tenir pour acquis, tenir pour stable le climat, la donne de ce qu'on appelle l'environnement au sens le plus général, les sols, etc. Non, il va falloir toujours penser. Donc il va falloir toujours faire attention. C'est quelque chose qui, de toute façon, est imposé par l'intrusion. Mais au moment où on se... de Gaïa, il va falloir apprendre à faire attention avec cet être qui est finalement implacable, mais implacable pas au sens méchant du terme, elle ne nous connaît pas, elle ne nous entend pas, elle n'est pas comme une de ces divinités grecques récentes de la cité grecque qu'on pouvait séduire, qu'on pouvait, avec lesquelles on pouvait se réconcilier, etc. Non, non, si c'est un nom de divinité, c'est un nom de divinité extrêmement archaïque, qui n'était pas le moins du monde anthropomorphe. Donc, faire attention, c'est de toute façon apprendre à faire attention et ce qui, de toute façon, est imposé par cette intrusion, qui n'est donc surtout pas une crise. Par contre, c'est aussi se rend-on compte, ce que nous avons désappris. Donc, ça montre que et l'État et le capitalisme ne sont pas des, comment dirais-je, des références auxquels on puisse se fier pour répondre à l'intrusion de Gaïa sur un mode qui ne soit pas barbare.
Mais Isabelle Stengers, j'étais en train de me dire, justement, là, en vous écoutant, que finalement, ceux qui croient pouvoir composer avec Gaïa, c'est justement l'État et le capitalisme qui pensent qu'à coup de sacrifice, on va s'en sortir. Qu'en sacrifiant les pauvres de la Nouvelle-Orléans, les riches auront une meilleure vie. En sacrifiant les salaires, le temps de travail, on arrivera à...
Vous savez, je crois pas qu'ils pensent vraiment en termes de composer avec quoi que ce soit. Je crois que peut-être que les personnes, patrons ou autres, dont on peut dire ils font partie du système capitalisme ou de la machine capitaliste, peut-être que même individuellement, elles sont très tourmentées, mais le capitalisme en tant que tel ne peut pas être tourmenté parce que ses capacités de calculer, d'abord sa manière de penser, c'est calculer, et ses capacités de calculer sont à court terme. Donc, du point de vue de la logique capitaliste, toute cette histoire aussi... atroce ou désastreuse qu'elle soit, sera lue en termes d'opportunités de profit. Ça a déjà commencé avec les quotas de CO2, c'est des occasions de profit extraordinaires pour toute une série d'entreprises. Donc la machine capitaliste, machinalement, tirera profit. Je crois que ceux qui représentent l'État, ceux que j'appelle nos responsables, eh bien, ils sont complètement dépassés par la situation. Je veux dire, ils sont complètement dépassés par la situation, ils ne peuvent pas penser à ça. Parce que justement, ce à quoi ils peuvent penser, c'est dans les termes de la croissance. Et donc, le rôle, c'est de nous calmer. Qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête? Est-ce qu'ils font des cauchemars? Je n'en sais rien. Et ça ne m'intéresse pas, parce que, de fait, ce qu'ils pensent, en tout cas dans nos pays, n'a pas grande importance. Donc le fait de composer s'adresse avant tout à toutes les capacités de pensée qui ont été mises de côté, sacrifiées, brisées, détruites par ce double développement étatique et capitaliste. Je ne crois pas qu'on peut faire attention globalement. On peut faire attention localement, dans la capacité qu'on a de poser le problème qui correspond à une situation et à ses capacités d'agir. Cela à tous les ordres, mais toujours de manière concrète, et pas dans « nous ferons attention » au sens abstrait du terme ou avec des calculs globaux. Donc je crois que c'est précisément les capacités locales de faire attention et d'inventer d'autres manières de faire attention, de poser les problèmes qui est en question, et une forme d'émancipation, oui, on pourrait dire émancipation, mais émancipation pas par rapport aux puissances traditionnelles de l'Église, oui aussi, hein, comme tout le monde, Benoît Machin, etc., d'accord, mais enfin, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est l'émancipation par rapport à ce qui nous a empêchés de penser, par rapport à ce qui nous a dit pas besoin de faire attention, par rapport à tout ce qui nous a anesthésié du point de vue de nos capacités de penser. C'est pour ça, et c'est là le rapport entre sorcellerie et capitalisme, et où je les cite explicitement, et au temps des catastrophes, c'est aussi ce mouvement qu'aux États-Unis on appelle « reclaim », qui n'est pas seulement reconquérir au sens de quelque chose dont on aurait été privé d'extérieur, mais aussi redevenir capable de prendre ses problèmes en main. Donc il y a aux États-Unis des mouvements culturels, spirituels et politiques à haute teneur oppositionnelle explicite. Je cite notamment les sorcières néo-païennes qui ont compris et qui ont agi sur cette compréhension que l'on ne pouvait pas aujourd'hui lutter sans aussi devenir profondément différent de ce qui est attendu de nous. C'est-à-dire une certaine abstraction où on réclame de l'État qu'il résolve nos problèmes. Et ça, c'est quelque chose que j'adresse dans « Au temps des catastrophes », peut-être encore plus explicitement que dans la sorcellerie capitaliste, aux anticapitalistes actuels, puisque aujourd'hui, une des nouveautés aussi, c'est qu'on ose de nouveau parler de capitalisme, qu'il y a un mouvement anticapitalisme et pas seulement altermondialiste. Et ce mouvement, pour moi, est très précieux. Par contre, il est, pour moi, extraordinairement vulnérable à être embarqué immédiatement dans les enjeux de la première histoire, celle où on lutte contre le capitalisme et où on exige de l'État, mais donc où les deux interlocuteurs clés sont le capitalisme et l'État, où on lutte pour le pouvoir d'État, et donc où le succès, c'est le tous ensemble dans les rues, mais un tous ensemble de colère qui n'est pas aussi d'invention. Parce que l'invention, la création des capacités de penser, de prendre en main, c'est les situations qui se posent, c'est évidemment plus lent, plus difficile, plus facile à empoisonner dans ce milieu non salubre c'est que le tous ensemble face à un ennemi commun qui serait les stratégies capitalistes par ces temps de crise. Donc, par exemple, pour être concrète, je sais que le parti anticapitaliste n'est pas inconscient des périls climatiques, sauf que ça a beaucoup moins de conséquences pour maintenant que les questions de revendication adressées à l'État et de protestation adressées aux capitalistes. Et je ne peux que les comprendre, encore une fois, c'est tellement normal d'être tous ensemble contre. Et pourtant, voilà, on n'a pas le choix. C'est une question de vie ou de mort, non pas que d'abandonner l'un pour l'autre, mais de coupler les deux. C'est-à-dire de réussir cette invention politique formidable que constitue un couplage entre des mouvements de protestation, revendication, lutte collective, tous dans les rues, et ces mouvements toujours locaux mais qui ont besoin d'être connectés, qui ont besoin d'apprendre les uns des autres, tout ce tissu à recomposer de capacités d'agir ensemble selon des analyses qui se réfèrent au capitalisme et à l'État comme des problèmes et non pas comme des interlocuteurs à qui on peut demander une solution.
Agir ensemble, dites-vous, Isabelle Stengers, dans l'hétérogénéité.
Oui. Mais oui, parce que justement, le point de tous ensemble qui anime les grands rêves, c'est effectivement un tous ensemble où on est tous réunis par une commune opposition. Donc on est rendu homogène par l'adversaire. Nous sommes tous les victimes et ceux qui entreprennent de résister et d'entrer en lutte contre ce qui nous rend victimes. Donc il y a une homogénéité, mais c'est une homogénéité qui ne tient que à l'antagonisme. Tandis que les capacités de poser les problèmes, de faire attention, d'inventer autrement, sont locales et comme elles sont locales, elles doivent chacune se constituer sur leur mode propre. Mais hétérogénéité ne veut pas dire, ignorance mutuelle les unes des autres. Mais ça doit être créé, les liens doivent être créés. Et c'est une superbe tâche pour le politique de créer les liens et de créer le milieu, de créer les récits, de faire résonance, de faire répercussion, de telle sorte que ces différentes initiatives, chacune précaire, chacune en danger, puissent, faire un type de réseau, faire un type de rhizome plutôt, qui font que elles apprennent les unes des autres et elles créent les milieux pour que d'autres trouvent l'appétit de se créer. Il y a un « oui, c'est possible » qui ne peut se créer qu'à partir d'exemples de réussite et d'apprentissage de ce que demandait la réussite. Or, ce « oui, c'est possible de penser, d'agir autrement, de prendre en main la position des problèmes », pour moi, ça n'est pas ce qui fera que Gaïa passera sans faire de dégâts, c'est que les dégâts qu'elle fera, nous serons capables de les penser sans simplement les subir sur le mode du malheur aux pauvres. Nous serons capables de les penser, même si c'est pénible, et les agir, leur répondre. Non pas répondre à Gaïa, mais répondre de notre histoire, de nos capacités humaines, de ne pas sombrer dans la barbarie.
Avec, à la clé, une joie, dites-vous.
Oui, ça c'est mon optimisme fort, que je crois que je partage avec les sorcières néo-païennes qui disent que la déesse qu'elles honorent, mais c'est nommer la déesse, c'est comme moi nommer Gaïa, c'est pour peupler notre imagination et peupler nos capacités de ne pas nous soumettre. Et elles disent, cette déesse est là où est la joie, là où est l'invention, là où est la connexion. La déesse n'est rien ailleurs que là. Et je pense très profondément que quand une collectivité réussit à poser ses problèmes par ses propres moyens, réussit à ne pas subir les « il faut bien », mais à prendre en main autrement la situation, et ça demande un apprentissage, c'est pas naturel, ça s'apprend, mais que cet apprentissage peut aussi produire de la joie. Et c'est vrai qu'en ce sens, je ne suis pas une décroissante au sens arithmétique du terme. Non, une décroissance qui ne soit pas barbare, c'est une décroissance où se développe autre chose. Est-ce que développement est le bon mot? Où se crée autre chose qui sont justement reprises. Reclaim, reprendre, retrouver, redevenir capable de nouveaux degrés de liberté de pensée et d'action, et que le marqueur de ce redevenir capable, c'est la joie.
Voilà, c'était donc Isabelle Stengers. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission et la télécharger pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous retrouverez également notre revue de web hebdomadaire et une bibliographie. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Mercredi prochain, 6 mai, c'est Phytobar et le sujet, ce sera la révolte des jardins avec Gilles Clément et Michel Comboulex. Le Phytobar, 47 boulevard Saint-Germain, métro Maubert Mutualité, à 19h. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.